Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. À Paris, plusieurs manifestations ont eu lieu hier. 13 800 gilets jaunes ont défilé selon le cabinet de comptage indépendant Occurrence, mandaté notamment par Radio France. 10 500 selon la préfecture de police. Sur l'ensemble du territoire, ils étaient un peu plus de 58 000 selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, un gilet jaune amputé de la main lors d'une manifestation aurait été agressé par un militant d'extrême droite. Plus de précisions dans un instant. Il y avait des gilets roses aussi hier dans les rues, plusieurs centaines d'assistantes maternelles qui dénoncent la réforme de l'assurance chômage. On entendront l'une d'entre elles dans ce journal. Au Nigeria, l'hélicoptère du vice-président s'est crashé hier alors que le vote de l'élection présidentielle a lieu dans moins de deux semaines et que la secte islamiste Boko Haram a mené plusieurs attaques dans la région. Précision à suivre avec Louise Baudet. Les gilets roses, les assistantes maternelles, étaient réunies hier pour la première fois dans 29 villes de France. Elles défendaient leur aide au retour à l'emploi menacée par la réforme de l'assurance chômage. Les gilets roses s'étaient organisés via des groupes Facebook avec l'aide des syndicats CGT et FO, mais la mobilisation parisienne. Dans cette mobilisation, les syndicats ne faisaient pas l'unanimité, Manon Clavry.
Devant le ministère de la Santé, où les assistantes maternelles se sont réunies, la musique ne trompe pas. La CGT est bien là. Les gilets roses se mêlent aux autocollants et pins rouges. Une omniprésence des syndicats jusque dans les prises de parole qui gênent certaines manifestantes. Madeleine Sylvan, assistante maternelle du Val d'Oise.
Je ne veux pas être assimilée. Je me bats pour moi, je me bats pas pour que les gens voient la CGT et l'AFO. On n'a pas eu le choix dans le sens où ça s'est fait tellement rapidement que la CGT et l'AFO nous ont aidés à la préparer. Mais pour des prochaines manifestations, on se fera entre nous, entre assistantes maternelles.
Une défiance envers les syndicats dont Denis Gravouille a tout à fait conscience. Il est un des cinq responsables de la délégation CGT dans les négociations sur l'assurance chômage.
On a le même intérêt, tous ensemble, à lutter. Le meilleur moyen d'empêcher les coups bas, c'est qu'il y ait du monde de mobilisé et qu'il y ait des mobilisations unitaires. Donc au fur et à mesure, on va apprendre à se parler et en échangeant les infos, sans avoir l'air de récupérer, on sera en mesure de mieux se connaître.
Céline, elle, compte justement se syndiquer.
Je pense de plus en plus à le faire parce qu'ils sont calés sur les lois, ils sont là pour nous aider. Nous, on a un métier qui n'est pas reconnu. On a des droits qu'on ne connaît pas forcément. On appelle l'inspection du travail, ils ne savent pas nous aider. Pôle emploi, quand on débarque, ah, vous êtes ASMAT, mon Dieu, au secours.
Les assistantes maternelles n'étaient qu'une cinquantaine hier à Paris, mais pour elles, ce n'est qu'un début. Elles comptent bien sortir de leur silence.
Un reportage signé Manon Clavry pour France Culture. À Paris aussi, les gilets jaunes ont défilé de la place de la Bastille à la place de la République hier. Un acte 12 qui a mis l'accent sur la dénonciation des violences policières. Et c'est dans ce contexte qu'un gilet jaune amputé de la main aurait été agressé par un militant d'extrême droite. Antoine Boudinet, un baïonné de 26 ans, devait prendre la parole hier place de la Bastille avec une vingtaine d'autres blessés du mouvement. Certains ont été éborgnés, d'autres étaient en fauteuil roulant. Ils dénonçaient ensemble l'usage excessif des armes de maintien de l'ordre depuis le 17 novembre dernier, date du premier samedi de manifestation des Gilets jaunes. Antoine Boudinet n'a finalement pas pu prendre la parole hier à cause d'une agression violente qu'il a subie en début de manifestation, Thibault Lefèvre.
Le visage tuméfié, le nez gonflé, Antoine a encore du sang sur son manteau en cuir et ses chaussures. Quelques secondes avant l'agression, il tenait une banderole en tête de cortège avec les autres blessés. Il s'est ensuite absenté quelques minutes pour aller chercher des cigarettes. C'est à ce moment-là qu'il a été frappé au visage.
Un homme d'environ la vingtaine est venu me voir. Il m'a demandé est-ce que j'étais antifasciste, c'est-à-dire que je suis contre le fascisme, mais personnellement je suis non-violent. Mais du coup j'ai répondu oui. Immédiatement, il m'a décoché une droite qui m'a explosé le nez. Donc je saignais de partout. Il s'est barré en courant. Pour moi, c'est de l'extrême droite et c'est l'extrême droite violente. C'est la branche clairement violente de l'extrême droite.
Antoine a perdu sa main le 8 décembre dernier quand une grenade de désencerclement a explosé alors qu'il la renvoyait sur les forces de l'ordre. Dès le lendemain, il a pris la parole pour dénoncer les violences policières. Une prise de position qui explique selon lui l'agression.
Il n'a pas agressé au hasard, c'est-à-dire qu'il est venu me voir moi. Il s'agit d'un facho qui voulait se taper un gaucho. Alors peut-être qu'il m'a reconnu, peut-être qu'effectivement il m'a agressé parce que je devais prendre la parole. Chacun des blessés est en soi une cible potentielle. Je commence à en avoir marre de traîner avec des gens qui défendent des idées aussi haineuses.
C'était la première fois hier qu'Antoine manifestait à Paris. Ce sera sans doute la dernière. À peine quelques heures après l'agression, il a porté plainte.
Thibault Lefèvre avec les moyens techniques de Clémence Bonfils. Le député LAREM, Aurélien Taché, ne votera pas la loi anti-casseurs en l'état. En cause, l'article 2 de ce texte qui permet au préfet de prononcer des interdictions de manifester à l'encontre de, je cite, « des individus représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public sous peine de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende en cas d'infraction ». À Marseille, 3000 personnes ont défilé hier du quartier Noailles jusqu'au Vieux-Port contre le logement insalubre. Et pour rappeler que 2000 personnes évacuées depuis le 5 novembre dernier, l'effondrement qui avait fait 8 morts et donc l'évacuation de 3 immeubles, Nacera fait partie du collectif Noailles en colère. Elle ne comprend pas que la situation des sinistrés ne soit toujours pas réglée.
Comme aucune solution n'a été trouvée de relogement par les pouvoirs publics, il est normal que tout le monde soit dans la rue. Et tant qu'il y aura un délogé dehors, la mobilisation continuera. Il y a 2000 personnes dehors et il y en a tous les jours, puisqu'on voit qu'ils passent à la démolition de 4 immeubles dans le centre-ville, qu'hier ils ont délogé à la rue Hoche. Enfin, tous les jours, il y a des immeubles entiers qui sont délogés. Ah mais on ne fait pas que marcher, on a proposé une charte du relogement, on pousse les pouvoirs publics à la négocier et à mettre ça en place dans le cadre de leur politique publique. Il n'y a pas que les manifestations dans la rue, hein. On fait de l'accompagnement social, ce que ne fait pas la mairie, on fait des distributions de produits d'hygiène, enfin on fait tout finalement. On aimerait bien que les pouvoirs publics prennent en considération tout cela et fassent ce pourquoi ils sont là, quoi.
Des propos recueillis par Olivier Martoc. Au Venezuela, on apprend à l'instant que le président élu Nicolas Maduro propose à l'instant de convoquer de nouvelles élections législatives anticipées. Nous y reviendrons plus largement dans toutes nos éditions sur France Culture. Au Nigeria, l'hélicoptère qui transportait le vice-président nigérian Yemi Osinbajo et son équipe en campagne électorale pour la présidentielle du 16 février prochain s'est écrasé hier dans l'état de Kogi, dans le centre du pays, sans faire aucune victime, a annoncé son porte-parole. Il s'agirait d'un accident, selon les autorités, alors que le pays et son voisin, le Nigeria, ont subi plusieurs attaques du groupe islamiste Boko Haram ces derniers jours, Louise Baudet.
La principale attaque a débuté au matin du 28 janvier contre la ville de Ran dans le nord-est du Nigeria. Une attaque parmi les plus meurtrières jamais menée par Boko Haram selon Amnesty International qui a mené l'enquête et rapporte qu'un groupe de combattants de Boko Haram est arrivé sur des motos et a incendié la ville poursuivant les civils qui tentaient de s'enfuir. Dans les 48 heures qui ont suivi l'attaque, la population a pris la fuite pour tenter d'échapper à la mort, rapporte le Haut Commissariat aux réfugiés. Plus de 30 000 personnes ont notamment gagné le Cameroun selon leurs témoignages. Le groupe djihadiste contrôle désormais la ville. Depuis l'été dernier, Boko Haram semblait davantage se concentrer sur les attaques de bases militaires pour y récupérer des armes et du matériel. Mais le groupe djihadiste qui a fait allégeance à l'État islamique en 2015 vise de nouveau les civils, y compris au Niger voisin, où 6 personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi après une première attaque qui avait fait 4 morts fin janvier dans des villages situés près du bassin du lac Tchad, un des repères de Boko Haram. Ce regain de violence interroge sur la capacité des autorités à faire face. Le président en exercice, Muhammadu Buhari, a beau affirmer que le groupe djihadiste est presque vaincu, son bilan sécuritaire est très critiqué. Comment, par ailleurs, organiser des élections dans ces zones frappées par les combats où plus d'1 800 000 habitants ne peuvent toujours pas rentrer chez eux? Le Nigeria s'apprête en effet à voter pour élire un nouveau président les 16 février et 2 mars prochains.
Louise Baudet, le pape François s'envole pour les Émirats Arabes Unis aujourd'hui pour un voyage de 2 jours dans la capitale, Abu Dhabi. Et ce sera le premier voyage d'un pape dans la péninsule arabique, Mathilde Lamberti.
La personne du pape est un pont en tant que tel, déclare enthousiaste son porte-parole avant le départ à Abu Dhabi. Le déplacement du chef de l'église catholique dans la péninsule arabique, berceau de l'islam, est une première. Et ce sont les Émirats arabes unis qui ont invité le pape parce qu'en 2019, ils célèbrent l'année de la tolérance. Le terrain est tout à fait favorable à l'expression de la thèse de François, ce pape qui multiplie depuis le début de son pontificat les voyages en terre musulmane. La foi unie chrétien et musulman, soutient-il.
Sono felice di questa occasione.
Je suis heureux d'écrire sur votre chère terre une nouvelle page d'histoire dans les relations entre les religions, confirmant que nous sommes des frères tout en étant différents. La foi en Dieu unit et ne divise pas. Elle nous rapproche malgré nos différences, elle éloigne les hostilités et l'aversion.
Les catholiques, qui représentent 10% à peine de la population des Émirats, pourront suivre la messe en plein air célébrée par le pape mardi dans un stade d'Abu Dhabi. Avec 130 000 fidèles attendus, on l'annonce déjà comme le plus grand rassemblement jamais organisé aux Émirats arabes unis. Enfin, en privé, le pape devrait aussi évoquer le conflit au Yémen dans lequel les Émirats sont impliqués militairement aux côtés de l'Arabie saoudite.
Le temps de la neige à l'est de l'Alsace aux Alpes du Nord jusqu'au Berry et à l'Auvergne. Des orages sur la Corse, alternance de soleil d'éclaircie au bord de la Méditerranée. Les températures ce matin vont de moins 2 à 9 degrés, moins 2 à Chambéry, 3 à Bordeaux et à Paris, 8 à Nice et jusqu'à 9 degrés maximum à Ajaccio.